sur le podcast de l'Institut V qui va à la rencontre des professionnels de la gastronomie végétale. Je suis Karine Castro et je suis ravie de vous accueillir sur ce nouvel épisode pour vous présenter Olivier Picard, chef formateur en cuisine végétale. Olivier a créé Terra Culinaria en 2014 où il propose des ateliers de cuisine végétale pour particuliers et professionnels. Un travail d'enseignement et de transmission qui le passionne. Pour cet épisode, j'ai demandé à Olivier de nous parler de son travail, de ses ateliers et de sa passion pour les plantes sauvages. Nous avons aussi parlé de techniques culinaires et de l'importance des sens en cuisine végétale. Sans plus attendre, je laisse place à notre conversation. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va et toi?
Super. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas?
Donc, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Olivier Picard. Je suis cuisinier spécialisé dans la cuisine végétale. Et j'ai créé Terra Culinaria en 2014.
2014 déjà. On est ici chez Terra Culinaria justement.
Oui, bienvenue.
Ce bel atelier où tu es chef formateur du coup. Est-ce que tu peux nous présenter ce lieu un peu plus en détail? Qu'est-ce que tu y proposes? Comment ça se passe ici?
Donc voilà, cet atelier au cœur de Paris. Donc c'est un petit atelier, hein. J'accueille des groupes de maximum 8 personnes. Aussi parce que j'aime bien les petits groupes, qui est vraiment un apprentissage personnalisé. Donc dans cet atelier, je propose des cours de cuisine. Donc j'ai deux formules, des cours de cuisine de 4 heures autour d'une thématique, légumes, légumineuses, algues, pain, pour apprendre différentes recettes et surtout des techniques autour d'une thématique bien précise. Et à côté de ça, j'organise des sorties de découverte des plantes sauvages en région parisienne. On va en région parisienne ramasser des plantes, on va même plus précisément dans l'Oise, et on revient à la fin de la journée, ici à Paris, dans l'atelier, pour cuisiner les plantes que nous avons ramassées.
Alors, donc, tu es effectivement passionné des plantes sauvages. D'où te vient cette passion?
Pour moi, en tant que cuisinier, et l'évolution logique, c'est de connaître tous les produits qui se consomment. Donc, en tant que cuisinier spécialisé dans la cuisine des produits végétaux, il me semblait logique de ne pas se limiter aux produits cultivés, mais de s'intéresser à la richesse incroyable des produits sauvages qu'on peut trouver en France, que ce soit des plantes ou des algues. Donc vraiment, j'avais vraiment cette volonté. En fait, ça s'est venu une frustration que j'avais quand je travaillais à l'Arpège, restaurant d'Alain Passard. Je voyais des plantes que je ne connaissais pas. Et du coup, je me suis dit, alors ma prochaine expérience en restauration, ça sera d'essayer de trouver un restaurant qui cuisine les plantes sauvages pour, si possible, accompagner le chef dans ses cueillettes et de cuisiner ces plantes-là. Voilà, et donc de fil en aiguille, j'ai découvert des nouvelles plantes et j'ai commencé à m'intéresser à la botanique, de suivre des spécialistes en botanique pour découvrir de plus en plus de plantes sauvages et pour pouvoir à mon tour transmettre ces connaissances-là.
Et comment on peut du coup utiliser ces plantes sauvages dans la cuisine végétale?
En fait, je dis toujours à mes élèves, d'abord apprenez la technique. Apprenez les techniques de découpe, les techniques de cuisson, les techniques de sauce. Ça va vous changer votre vie du quotidien. Moi, je dis toujours à mes élèves qu'on devrait apprendre à l'école ces techniques-là. C'est quand même la base de notre vie de cuisiner, de s'alimenter avec des produits frais que nous avons cuisinés nous-mêmes pour être en bonne santé. Donc du coup, moi, du coup, j'ai un plaisir à transmettre ces techniques-là que mes élèves ne maîtrisent pas forcément.
Pour qu'ils puissent... Oui. En quoi elles sont importantes finalement pour faire cette cuisine?
Elles sont importantes parce qu'en fait, le fait de maîtriser ces techniques-là, ça permet d'être plus autonome. C'est-à-dire que si on sait découper, donc on va savoir découper en petite taille rapidement. Et si les légumes sont coupés en petite taille, ils vont pouvoir cuire plus rapidement. Donc du coup, souvent, on a la flemme de cuisiner parce qu'on se dit que ça va prendre du temps. Mais si on a les techniques, on va pouvoir faire les choses rapidement en fait. Et avoir un plat frais, savoureux, rapidement.
C'est l'idée d'acquérir des réflexes en fait.
Des réflexes et une plus grande rapidité et surtout un plus grand éventail de techniques. C'est-à-dire qu'on va aussi pouvoir avoir une cuisine très diverse parce on voit une carotte, on a voilà, 30 idées qui nous viennent de manière de transformer la carotte parce qu'on a cet éventail de techniques en nous et du coup il n'y a plus qu'à piocher dedans et piocher de manière différente jour après jour pour explorer vraiment des champs incroyables. Donc les plantes sauvages c'est la même chose. Les plantes sauvages, une fois qu'on a la technique, ben, on sait très facilement les transformer comme un légume qu'on achèterait.
D'accord. Qu'est-ce qui te motive pour faire ce métier?
Ben, ce qui me motive, c'est l'enseignement. C'est d'accueillir mes élèves et de les voir ressortir, alors au bout de quelques heures, au bout de quelques jours, les voir ressortir du cours ou de la formation, changer. Content déjà d'avoir appris des nouvelles choses, d'avoir intégré, compris des tours de main, des manières de faire.
Tes élèves, ce sont plutôt des amateurs, des professionnels en reconversion. Qui est-ce que tu as en cours?
Donc, du coup, j'ai parlé des cours de quelques heures. Ça, évidemment, c'est surtout des amateurs, des gens qui viennent pour apprendre des recettes, quelques techniques. À côté de ça, donc, j'ai une formation de 5 jours, basse technique de cuisine. Donc là, les gens viennent parce qu'ils sont motivés pour apprendre vraiment les techniques que j'ai citées, de taillage, de cuisson, d'assaisonnement. Donc, apprendre ces techniques plus en profondeur.
C'est un cran au-dessus.
Et donc, du coup, il y a des amateurs qui veulent. Qui ont pris conscience que pour améliorer leur cuisine du quotidien, il faut, c'est génial d'apprendre les techniques, ça change la vie. Et il y a une partie, c'est des gens qui ont un projet professionnel dans la restauration ou qui, à leur tour, veulent transmettre des techniques de cuisine. Il y a aussi des gens qui ont déjà leur restaurant, déjà leur lieu, déjà leur activité, mais qui veulent aller plus loin dans l'apprentissage des techniques pour être plus créatifs au quotidien. Dans le restaurant.
Spécifiquement végétal ou pas forcément? Est-ce que tu sens qu'il y a un engouement quand même pour la cuisine végétale et qu'ils viennent aussi te voir pour ça?
Spécifiquement, les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui veulent devenir professionnels. Ce sont des gens qui ne veulent pas passer par la filière classique de cuisine traditionnelle française. Ils ne veulent pas aller en lycée hôtelier, apprendre les techniques de cuisine traditionnelle française qui sont, je pense, allées aux trois quarts basées sur la transformation de produits animaux. Donc de chair animale, viande, poisson ou de l'utilisation de produits laitiers. Donc ils veulent venir me voir pour directement aller apprendre à cuisiner ce qui leur plaît vraiment, c'est-à-dire le végétal. Donc il y a large panoplie, hein, on n'en a pas encore parlé, mais le végétal, c'est énorme en fait en termes de diversité. Donc légumes bien sûr, fruits, légumineuses, la diversité des légumineuses, hein, des céréales. Les algues et les plantes sauvages qu'on a évoquées. Donc en fait, il y a énormément de choses à faire avec le végétal. Et dès que le végétal n'est plus relayé au rang de la garniture, du coup, on va le travailler de manière très simple, une cuisson très simple. Dès que le végétal devient la star du plat, alors là, on va pouvoir vraiment le travailler plein de façons différentes, élargir le champ des possibles. Et voilà, et on voit qu'en fait, la cuisine végétale est très créative, on peut aller vraiment très très loin. Et proposer des plats très aboutis et très divers avec des ingrédients végétaux.
Comment tu observes un peu ce qui se passe en cuisine traditionnelle, en tout cas quand certains chefs traditionnels font ce qu'on appelle de la cuisine légumière, qui sublime le légume, le fruit. Comment tu observes ça? Qu'est-ce que tu en penses?
Ah, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose. Qui est, je pense à Alain Passard, à Laurent Petit par exemple, qui sont des chefs qui mettent du végétal dans leur cuisine, avec en utilisant les techniques traditionnelles françaises qui sont très riches. Moi je me base là-dessus, hein. Toutes les techniques que je transmets sont basées sur les techniques traditionnelles françaises. Donc c'est une bonne chose, on voit des choses très intéressantes. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. On peut aller encore plus loin dans le travail, notamment des légumineuses. Voilà. Pas se contenter du travail des légumes, même s'il y a déjà beaucoup de choses à faire, mais aller plus loin dans d'autres, sur le travail des céréales, des légumineuses. Par exemple, moi je m'amuse à transmettre à mes élèves la technique de la polenta de maïs traditionnel, adaptée aux légumineuses ou aux céréales. En fait, la polenta, c'est le principe de faire une purée ferme avec peu d'eau qui va durcir en refroidissant. Et après, une fois que c'est dur, bah, on portionne et on colore. Ça, c'est le principe de la polenta de maïs. Mais une fois qu'on a compris que c'est grâce à l'amidon que du coup notre purée durcit et qu'on peut la portionner, et bah, du coup, on peut faire cette recette de polenta avec toutes les céréales, toutes les légumineuses. Du coup, on s'amuse à faire de la polenta de lentilles corail, la polenta de pois cassés. Et c'est délicieux. Sachant que dans la polenta, voilà, les chefs le savent, on peut évidemment mettre aussi des aromates, tout un tas de choses aussi pour relever cette polenta. Donc voilà, c'est un exemple pour dire que, voilà, avec les céréales légumineuses, on peut vraiment s'amuser à faire plein de choses, dont cette polenta.
Et les légumineuses apportent en plus cette protéine qui manque aux clients végétaliens, véganes, qui peuvent aller dans un restaurant traditionnel et qui n'ont pas forcément, dans cette cuisine légumière en tout cas, ces protéines qui ne sont pas forcément remplacées.
Voilà, tout à fait. Tout à fait, la présence des légumineuses permet d'apporter cet équilibre. Voilà, ce qui est intéressant de travailler, c'est de travailler sur les parfums des légumineuses et de voir qu'une légumineuse, au niveau des parfums, peut très bien se marier avec un légume. C'est pas seulement les légumes qui se marient bien entre eux, mais je pense à la lentille corail qui va bien se marier avec la carotte, qui va bien se marier avec de l'orange, avec du curry. Voilà, on peut vraiment associer, faire un travail d'association entre une légumineuse et un légume. Les chefs ont tendance à, je crois, à associer les légumes entre eux, pas forcément penser à comment travailler la légumineuse et l'associer avec le légume. Donc je pense qu'on peut pousser encore plus loin ce travail, voilà, des légumineuses et céréales qui sont, comme tu le dis, Karine, très riches en protéines, pour une alimentation végétarienne.
Et qu'est-ce que tu penses des produits de type seitan, protéines de soja texturées, tempeh, ces soja un peu fermentés, qu'est-ce que tu penses de ces produits en particulier?
Alors, plusieurs choses. Déjà, moi, ma démarche, c'est déjà d'abord d'apprendre aux gens à travailler les produits bruts. Quand je dis produits bruts, c'est voilà, les produits, les légumes, les fruits, les céréales, les légumineuses bruts. Apprendre déjà à les transformer. Après, ajouter des produits fermentés, comme le tempeh. Hein, le tempeh, c'est des graines de soja fermentées, c'est une recette indonésienne. Ajouter des produits fermentés qui vont donner une force. On parle d'umami, hein, d'une sapidité, une rondeur en bouche. Donc ça va donner vraiment une profondeur au plat. Ça, c'est intéressant. Et surtout que le produit fermenté, s'il n'est pas cuit, va apporter voilà, une richesse en bactéries lactiques pour le microbiote. Donc c'est très très bon pour la santé, notamment pour éviter le développement d'allergies, pour avoir un bon équilibre voilà, au niveau de la santé. Donc c'est intéressant d'introduire des aliments fermentés. Après le seitan, la protéine de soja texturée, personnellement, moi je suis moins fan parce qu'on cherche à reproduire des textures qu'on retrouve dans les produits animaux. Moi je trouve qu'on a tellement déjà de choses intéressantes, de textures intéressantes dans le végétal. Pourquoi chercher à reproduire ce qu'on a dans l'animal? C'est vrai que je ne comprends pas trop.
Ça peut répondre à un certain type de clientèle éventuellement.
Voilà, tout à fait. C'est bien qu'il y ait la diversité de toute façon pour répondre à tous les besoins. Voilà, c'est vrai que moi j'encourage toujours les élèves à partir du produit brut parce que c'est aussi moins cher. Donc partir vraiment de la cuisson de la légumineuse, voilà, des légumes, céréales, etc., au lieu d'acheter des produits transformés. Parce que c'est vrai que le seitan, après le seitan peut être fait soi-même à partir de gluten de blé. Hein. Donc ça peut revenir peu cher au lieu d'acheter son seitan déjà fait. Voilà.
On n'a pas parlé du bio, du local, et de la saisonnalité, mais c'est quelque chose, auquel tu es très attaché aussi.
En fait, pour moi, le végétal, c'est un des quatre piliers, de la cuisine que je transmets à mes élèves. Végétal, bio, local de saison, c'est les quatre piliers qui font que la cuisine, cette cuisine tient la route, qu'on est dans une cuisine d'avenir. Si on a une cuisine végétale, mais les produits sont à base de pesticides, viennent de l'autre bout du monde, voilà, et ne sont pas de saison, si voilà, un chef se met à cuisiner ou chez soi on cuisine des tomates pleines de pesticides en hiver, bon, c'est dommage et
C'est pas
c'est pas du tout
l'idéal.
ma démarche, effectivement.
Et donc les quatre piliers vont de pair, quoi. Les uns vont avec les autres.
Voilà, c'est pour ça que voilà, Le végétal, voilà, et pas au-dessus des autres. Pour moi, le bio est aussi important que le végétal, le local et le respect de la saison aussi.
Tu as travaillé avec des grands chefs, dont Alain Passard. Qu'est-ce que tu leur dirais si tu les revoyais, quelle discussion tu aimerais avoir avec eux?
Déjà de les remercier. Les remercier parce que à l'arpège, ça a été très intense, surtout quand on arrive, on est en apprentissage, on est au bas de l'échelle, donc on fait beaucoup de nettoyage, beaucoup d'épluchage, ce qui est normal. Mais en même temps, on apprend énormément de choses déjà en regardant et puis déjà en pouvant s'investir dans ce qu'on nous propose de faire, des découpes, des dressages, certaines préparations. Donc tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu faire m'a vraiment enrichi. Et ce qui m'a aussi enrichi, c'est le côté perfectionniste, le côté voilà, faire les choses vraiment parfaitement, et la propreté. Être bien organisé, être propre, de faire quelque chose sur son plan de travail, de le quitter, et que soit à la limite plus propre quand on arrivait sur notre plan de travail. Donc c'est ce côté nettoyer au fur et à mesure, être exigeant, ça sert, et je pense quand même ça sert pour tout le monde. C'est vraiment plus agréable de cuisiner en nettoyant au fur et à mesure les outils qu'on utilise. On est donc toujours un espace, un plan de travail propre devant soi, dégagé. Ça aère l'esprit, on a une vision plus claire de ce qu'on fait.
Ça permet de s'organiser
Ça permet
aussi.
de plus s'organiser, voilà, que ce soit. Donc ça, c'est vraiment des valeurs, des manières de faire qui m'ont vraiment parlé, que j'essaie de transmettre à mes élèves.
Et qu'est-ce que tu dirais, quel conseil donnerais-tu aux jeunes chefs qui souhaiteraient se lancer dans la cuisine végétale aujourd'hui?
D'être ouvert à l'ingrédient, de ne pas essayer de refaire ce que font les autres, mais de si les chefs, bien sûr, ont des bonnes bases techniques qu'ils ont pu apprendre au lycée hôtelier, en restauration, par leur expérience, donc avec ces bases techniques, voilà, qu'ils soient ouverts après à la façon de transformer les ingrédients, et si on laisse vraiment les écoutilles ouvertes, il y a énormément de possibilités de transformer chaque ingrédient. Et voilà, il y a un point que je souhaitais évoquer aussi, c'est l'essence en cuisine. C'est vrai qu'en lycée hôtelier, peut-être parce que c'était une formation accélérée pour adultes, 7 mois, mais on m'a, alors, soit un peu, mais j'ai très peu de souvenirs, voire aucun souvenir, qu'on m'ait parlé des sens en cuisine. C'est-à-dire que quand on cuisine, et ça j'en parle à tous mes élèves, que ce soit des futurs professionnels ou des amateurs, de penser à l'équilibre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cuisiner des produits n'importe comment, il faut penser à l'équilibre. Et donc j'ai fait tout un travail de recherche, d'expérimentation pour comprendre ce que ça voulait dire. Donc un plat est bon et juste, un plat est créatif parce que les équilibres ont été respectés. Quand j'ai équilibre, c'est les équilibres au niveau du goût. Donc les goûts, c'est ce qu'il y a dans la bouche. Donc c'est l'acidité, le sucré, le salé, l'amer, l'astringent, le piquant, l'umami, le chaud, le froid, le gras. L'humide, voilà, c'est tout ce qui se passe en bouche. À ne pas confondre les goûts avec les parfums. Les parfums, c'est ce qu'on sent avec notre nez, ce qui, bien sûr, ce qu'on perçoit aussi en bouche, parce que ça remonte dans le nez. Donc les parfums, bah, c'est les parfums d'agrumes, parfums de fraises, voilà, de fruits rouges, parfums de carottes. Voilà, donc ça, c'est les parfums, les goûts. Déjà, ce travail au niveau des goûts, des parfums, on voit que les goûts, on peut doser l'intensité de chaque goût qu'on met dans l'assiette. On peut réfléchir à la diversité. C'est-à-dire un plat avec juste un goût salé, c'est bien. Mais si on a un plat avec un goût salé, acide et gras, c'est déjà mieux. Je ne dis pas qu'il faut toujours mettre plein de goûts, mais
Mais
dès qu'on a une diversité,
mieux par rapport à quoi?
c'est mieux au niveau du plaisir de la dégustation. C'est-à-dire qu'un plat juste salé, ça sera agréable. Mais s'il y a de l'acidité, hop, ça donnera un peps, ça donnera du relief au niveau du goût. Donc c'est intéressant de penser à la diversité des goûts, à l'intensité, c'est-à-dire doser son acidité, doser son gras, doser son piquant si on veut en mettre. Voilà, parce qu'évidemment, si on dose trop, c'est écœurant. Donc il faut penser au dosage de chacun de ses goûts. Et
Mais
après, oui.
les goûts sont subjectifs aussi quand même. Comment arriver à ce compromis qui va contenter tout le monde finalement?
C'est ce qui se passe en bouche qui compte, c'est-à-dire qu'un chef, il goûte. Et évidemment, le chef va proposer sa propre subjectivité à ses clients. Mais par l'expérience, par les retours qu'il a eus de ses anciens chefs et de ses clients, il va pouvoir doser. Puis quand même, le palais, le goût, évidemment que c'est subjectif, mais il y a quand même une objectivité. Quand on a, voilà, quand quelque chose est juste, quand quelque chose n'est ni trop est acide, gras, salé, mais pas trop, ça se sent. Il y a quand même une objectivité, on a quand même un palais plus ou moins commun.
Il y a ce goût universel.
Voilà. Donc, vous voyez, intensité, diversité et complémentarité au niveau des goûts, hein. Pensez aussi que qu'un produit acide, je pense à la rhubarbe, comment on va faire pour baisser l'acidité? On va m'y mettre du sucré. Voilà. Donc on voit le piquant à un oignon cru piquant, si on veut le laisser cru, et ben pour baisser le piquant, on va y mettre de l'acidité. Voilà. Pensez aux équilibres de goût, aux parfums. Hein. On peut soit faire des plats avec des parfums pas du tout cohérents, pourquoi pas. Mais on peut réfléchir, voilà, à faire un plat en choisissant des ingrédients avec des parfums cohérents. Et souvent, en se basant sur les couleurs, ça marche très bien. Des ingrédients avec une couleur orange, donc je citais tout à l'heure la lentille corail, l'orange, la carotte, le curry, le cumin, voilà, tout ça, c'est des parfums qui évoquent l'orange. Ils vont se marier de manière juste au niveau des parfums. Et vous pouvez avoir cette même réflexion pour des ingrédients blancs, je pense au panais, au céleri rave, aux champignons, aux haricots blancs. Tout ça, c'est des ingrédients qui se marient très bien. Voilà, c'est infini. Pourpre, c'est la même chose. Vert, c'est la même chose. Jaune, c'est la même chose.
C'est ce que tu appelles les assiettes monochromes.
Voilà, tout à fait. Mais on voit que la couleur a vraiment son importance et les ingrédients de même couleur ont des parfums qui se marient bien. C'est vraiment.
Donc si on ne sait pas, on peut juste se référer à la
Voilà,
couleur et
déjà,
on.
c'est un bon point de départ.
Ouais.
Donc là, j'ai parlé de ce qui se passe en bouche, j'ai bien parlé des parfums, et aussi, troisième sens, le toucher. Donc le toucher, c'est ce qu'on. Voilà, c'est les textures en bouche. Hein. Donc du coup, un plat monotexture, une soupe, bah, c'est bien, mais une soupe avec des croûtons, c'est encore mieux. Et donc c'est toujours comme ça, tous les plats, dès qu'on jeu sur les textures, hein, donc évidemment le croquant, l'onctueux, le liquide, le fondant. Toutes ces textures-là, si on les a en diversité dans l'assiette, c'est le feu d'artifice et c'est beaucoup plus plaisant. Donc vraiment, ce travail au niveau des textures est intéressant. Et puis, bien sûr, on a la vue. Travailler sur les couleurs, les formes, les volumes des ingrédients, ça permet vraiment d'avoir un visuel intéressant, de donner envie de croquer dans ce qui est préparé. Et enfin, l'ouïe, le bruit des aliments est intéressant. Hein. Un paquet de chips. Quand on entend quelqu'un manger des chips, c'est soit agréable, soit désagréable. Mais c'est vrai que c'est stimulant. Penser au bruit des aliments, à la dégustation, c'est intéressant. Donc voilà, j'ai pris ce temps pour expliquer ça, parce que c'est
Non,
sens
c'est
en
important, c'est
cuisine.
vrai que c'est important.
C'est sens en cuisine, en tout cas dans mon apprentissage de cuisinier, ce n'était pas assez explicité. Alors pour moi, c'est aussi important que les techniques. En fait, pour moi, les techniques sont là pour valoriser les sens.
C'est un support, en fait, finalement.
Les techniques sont un support pour valoriser les sens, en fait. La cuisine, c'est vrai que c'est. Si on peut appeler ça un art, c'est un art qui valorise nos cinq sens, c'est assez rare pour le signaler.
L'assiette parfaite serait donc celle
Qui valorise de manière juste et
qui équilibre
équilibrée
les
les cinq
sens.
sens. Et la recherche d'un chef. Je me permets de citer l'émission Top Chef, hein, que j'ai du plaisir à regarder, parce que c'est constamment, le discours des candidats et des chefs qui les coachent sont toujours basés sur ces sens. Voilà, les textures, ah, il y a trop d'amertume, il faut contrebalancer l'amertume
C'est
par du
vrai.
sucre, par de l'acidité. Constamment, le discours est tourné autour de ça, ce qui est très pertinent. Et que voilà, un plat qui est juste, qui est apprécié par le jury, sera un plat qui sera équilibré au niveau des sens. Donc c'est vraiment primordial. Là, on parle des chefs, on parle des jurys, mais même pour la cuisine du quotidien, penser à ça, c'est primordial aussi. Quand on goûte sa vinaigrette, bah, on va penser, ah, ma vinaigrette. Elle manque de sel, ah, elle pourrait être un peu plus acide. Et voilà, c'est même dans une cuisine plus simple du quotidien, penser au sens, c'est important.
Finalement, c'est revenir à une écoute qu'on n'a pas forcément, s'écouter, écouter nos sens, regarder les couleurs, observer tout ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire au quotidien, mais qu'il est important du coup de faire pour arriver à quelque chose d'agréable en tout cas.
J'aime bien cette notion d'écoute. On pourrait même, de manière plus spirituelle, parler de méditation, c'est-à-dire de prendre le temps d'observer voilà, les sens, d'observer ce qui se passe en bouche et de sentir si c'est juste ou pas. Voilà, donc c'est vrai que c'est prendre le temps juste de goûter, d'apprécier, que ce soit quand on cuisine ou quand on est hôte, quand on est invité, pardon, quand on est à table et qu'on reçoit le plat, prendre le temps voilà, d'apprécier tout ça, de méditer, d'être en connexion avec le plat et pas manger sans trop se rendre compte de
Sans
ce qu'on mange,
conscience.
sans conscience parce qu'on parle d'un autre sujet ou il y a un stress. Donc c'est revenir à ça, à cette méditation. C'est vrai que l'alimentation peut être source d'un apaisement, d'une méditation en appréciant justement cette juste valorisation des sens dans l'assiette.
Merci Olivier pour toutes ces explications.
Avec grand plaisir, Karine.
Et à bientôt pour un atelier peut-être.
Oui, très bien. À
À
bientôt.
bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à visiter le site web de Terra Culinaria. Vous y trouverez toutes les informations sur les ateliers d'Olivier. N'hésitez pas à suivre également l'Institut V sur les réseaux, à partager vos commentaires et à me poser vos questions. Je serai ravie d'y répondre. Un grand merci à tous pour votre écoute. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.